La Haute-Loire en Amérique, l'épopée Lafayette. 6 septembre 1757. Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert Dumotier, plus connu sous le nom de marquis de Lafayette, naît le 6 septembre 1757 au château de Chavagnac, en Haute-Loire. Jeune homme fortuné et de bonne naissance, il passe ses premières années au château, au milieu des champs et des vaches, dans une quiétude de courte durée. Il devient en effet orphelin à l'âge de 13 ans. Très jeune, il débute une carrière militaire au service des mousquetaires noirs du roi. Promu capitaine à l'âge de 17 ans, il épouse Adrienne de Noailles, fille du duc de Noailles, pair de France. Passionné par les idées des philosophes, fidèle aux idéaux de liberté, l'annonce de la déclaration d'indépendance des colonies anglaises d'Amérique et la nouvelle des désastres essuyés par les insurgés devant New York vont le convaincre de se battre aux côtés de cette jeune nation. 26 avril 1777. Au matin du 26 avril 1777, le jeune marquis de Lafayette, qui n'a pas encore 20 ans, embarque, contre la volonté du roi Louis XVI et de sa belle famille, à bord de la Victoire, navire qu'il vient d'affréter. Il vogue vers cette jeune nation, les États-Unis d'Amérique, où les insurgents luttent farouchement contre les Anglais. Arrivé à Georgetown, il rejoint l'état-major de George Washington, commandant de l'armée américaine, où, malgré un premier accueil glacial, il saura se faire entendre. Nommé major général de l'armée américaine par son nouvel ami Washington, Lafayette commande un régiment de volontaires sans solde, soldats sans uniforme, sans armes, sans discipline. Mais c'est à ses frais qu'il pourvoira rapidement à leur équipement et leur armement. 11 septembre 1777, Lafayette connaît pour la première fois l'épreuve du feu à la bataille de Brandywine, où il se jette dans la mêlée avec enthousiasme et bravoure, sans hésiter à verser son sang pour la cause américaine. Sérieusement blessé, le courage dont il fit preuve en ces circonstances lui valut un grand prestige et fit de lui une sorte de mascotte de l'armée américaine. Toutefois, la situation des insurgents n'est guère brillante. Pressés de tous côtés par l'armée anglaise, Washington et Lafayette sont réduits à hiverner dans les marécages de Valley Forge. Washington, désormais convaincu de la valeur du jeune homme, lui confie le commandement effectif d'une division, à la tête de laquelle Lafayette va forger sa légende. À la frontière canadienne, il rallie à la cause de l'indépendance les tribus indiennes. Il fait preuve de sang-froid et de présence d'esprit lors de l'expédition à Barren Hill, et parvient à éprouver les troupes anglaises lors de la bataille de Monmouth. Cependant, les succès en demi-teinte de l'armée américaine et l'échec de l'attaque menée en juin 1778 contre Newport avec le soutien de la flotte française, commandée par l'amiral d'Estaing, convainquent Washington de renvoyer Lafayette en France où ce dernier pourrait y jouer un rôle diplomatique utile à la cause américaine. Auréolé de sa gloire américaine, reçue avec bienveillance par le roi et la reine, il rencontre Vergennes, qu'il presse d'envoyer des troupes françaises en Amérique. En 1780, Lafayette embarque pour les États-Unis à bord de l'Hermione, afin d'y préparer l'arrivée du corps expéditionnaire que la France vient enfin de décider d'envoyer. Organisateur de talent, dès l'automne 1781, Lafayette se couvre de gloire à la tête de ses miliciens américains lors du siège de Yorktown, qui verra la capitulation de Cornwallis, commandant de l'armée anglaise. 3 septembre 1783. Nouées dès la capitulation, les négociations qui suivirent aboutirent le 3 septembre 1783 au traité de paix de Versailles. Acte de naissance officielle des États-Unis, ce traité est aussi le symbole de l'amitié franco-américaine. En 1792, à son retour à Paris, Lafayette fut comblé d'honneur, beaucoup plus qu'en militaire. Il agissait en diplomate, ayant de fréquents et complices rapports avec Franklin, ambassadeur des États-Unis en France. Après s'être activement occupé des intérêts américains en France, Lafayette retrouve l'Amérique en 1784 à l'invitation personnelle de George Washington, premier président des États-Unis, qui souhaite le recevoir à Mont-Vernon. Ce voyage, souvent considéré comme une affaire privée, annonce en réalité la visite triomphale que le marquis accomplira 40 ans plus tard et prend un caractère symbolique. Au cours des années qui suivirent, Lafayette continua de se comporter en agent bénévole entre les États-Unis et la France, qu'il s'agisse de questions privées ou d'affaires d'État. Ainsi, rien de ce qui touche les intérêts américains ne lui est indifférent. Sa demeure parisienne devint une sorte de maison des États-Unis à Paris. Le dernier voyage, Le dernier voyage de Lafayette aux États-Unis, en 1825, présente un très grand intérêt. En effet, ni avant ni depuis, un étranger venu à titre privé n'a été reçu aux États-Unis comme l'hôte de la nation et n'a été l'objet d'un enthousiasme aussi prolongé et aussi spontané, exprimant vraiment la reconnaissance de tout un peuple. Il sera reçu comme jamais, chef d'État ne le sera, l'opinion américaine voyant en lui le symbole de la France idéale. De ce dernier séjour, Lafayette rapportera de la terre d'Amérique, dans laquelle il tiendra à être enseveli, au cimetière de Picpus à Paris, aux côtés de sa chère épouse, Adrienne de Noailles.